19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur les dans les informés sur Beurre FM. Merci, quel plaisir d'être avec vous quotidiennement. Quotidiennement, nous sommes ensemble pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Jusqu'à 20h bien sûr. Alors vous le savez, d'abord plusieurs invités vont défiler, d'abord sur notre antenne. Marie Toussaint, la députée européenne écologiste qui sera avec nous. Puis tout à l'heure, nous irons direction Nantes, où il y a visiblement un souci avec un lycée et des réfugiés. Eh bien, on va en parler, des réfugiés politiques. On va en parler, ça se passe au lycée Arago, à Nantes, avec le principal lui-même, qui a décidé de porter, évidemment, un véritable coup de gueule. Et puis, 01 53 48 3000, c'est votre antenne. Vous nous appellerez au standard 01 53 48 3000 pour parler des sujets d'actualité qui nous concernent. Et puis, le face-à-face, tout à l'heure. Eh bien, il s'agit de Rudy Kazi face au conseiller régional. Je veux parler de Philippe Nadji Bouriaki qui sont ensemble pour confronter leur point de vue sur trois sujets d'actualité. Tiens, tiens, Éric Zemmour qui se retrouve face, ou je dirais même, qui commence à donner un coup de tacle à Marine Le Pen. On en parlera tout à l'heure. Va-t-il se retrouver président de la République? On ne sait jamais. Ça, c'est le nouveau sondage explosif. On le commentera tout à l'heure. Et puis ensuite, après, nous parlerons de Éric Dupond-Moretti qui s'en prend violemment lui-même à Éric Zemmour. On le commentera. Qu'est-ce qui lui arrive à notre ministre? Et puis Nicolas Sarkozy, décidément que des sujets autour de l'immigration et de la religion. Plusieurs centaines de mosquées ont été créées en France. Je n'ai pas vu beaucoup d'églises ouvertes ailleurs. Et bien, ça mérite qu'on clarifie un petit peu tout ça. Voilà le programme qui vous attend. C'est parti. Et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Alors, nous sommes avec Marie Toussaint. Marie Toussaint, c'est l'invité actu.
Les informés, l'interview.
Madame la députée européenne écologique, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes... Bonsoir, merci d'être avec nous. Dites avec donc, plaisir. Vous faites parler de vous, Madame Marie Toussaint, Madame la députée européenne. Il y a eu une procédure administrative, l'État entamé contre l'État. Vous êtes un peu, quelque part, c'est un peu une belle affaire. L'affaire, comme diraient d'autres, l'affaire du siècle vous concernant. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit?
En quelques mots.
Ça vous fait sourire, je vois ça.
Ah bah, il faut sourire quand les choses avancent.
Oui, c'est vrai.
En quelques mots, pour remémorer un peu ça à vos auditeurs et vos auditrices, en décembre 2018, nous lancions, avec notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la FNH, une action en justice contre l'État français pour inaction climatique, parce que l'État ne respectait pas ses objectifs climatiques. On avait à ce moment-là recueilli 2,3 millions de signatures en soutien à cette action. Et on a eu une première condamnation de l'État en février dernier. Et là, la semaine dernière, une audience, on attend les conclusions la semaine prochaine, au tribunal administratif, qui demande à l'État de réparer le surplus d'émissions de gaz à effet de serre dont il est responsable.
Vous le dites vous-même, hein, je reprends votre déclaration, vous dites que l'État a une obligation de résultat sur le climat.
Exactement, oui. L'État français, depuis longtemps, et donc avec différents gouvernements, a adopté des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de diminution des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Et le problème, c'est que ça, c'est dans nos lois, c'est dans nos décrets. Enfin bref, il y a des obligations qui existent, et ces obligations-là n'ont pas été respectées. Quand un État prend une loi, il s'attend que les citoyennes et les citoyens la respectent. Hein. On a tous déjà eu des amendes quand on ne respectait pas la loi. Bon, et ben l'État, c'est pareil. En fait, il doit aussi respecter ses propres lois. Donc, il y a effectivement une obligation de résultat sur le climat. On ne peut pas se pavaner partout autour de la planète en disant la France est le leader du climat. Et puis, dans la réalité, ne pas faire en sorte que les émissions du pays baissent.
Dites-moi, Marie Toussaint, Madame la députée, justement, je vous pose la question parce que je vois que, un peu partout d'ailleurs, on dit que cette décision risque d'être une décision historique. C'est une décision historique. C'est pour ça qu'on parle d'affaire du siècle. Est-ce que vous la jugez vous-même dans la forme historique et dans le fond ?
Oui, c'est une décision historique. D'abord, c'est une affaire historique. Et quand on dit l'affaire du siècle, c'est aussi parce que l'enjeu du 21e siècle, c'est de savoir si on réussira ou non à préserver le climat et notre planète. Donc c'était ça le point de départ de cette appellation. Et puis, c'est une décision historique parce que c'est la première fois, avec l'affaire Grande Sainte, qui est une affaire en parallèle, c'est la première fois que l'État est condamné pour ne pas agir assez contre le dérèglement climatique. Et dans le cas de l'affaire du siècle en particulier, ce qui est en train de se décider, c'est mais à quoi est condamné l'État ? À quoi peut-il être condamné ?
Oui.
Et donc la proposition de la rapporteure publique, donc il faut attendre la décision des juges, mais la proposition c'est de dire, puisqu'il y a un surplus d'émissions dans le passé, il faut qu'il y ait encore moins d'émissions dans le futur. Donc on est en train de changer, la nature des obligations de l'État, à la fois d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire que les dirigeants ne peuvent plus parler s'ils ne respectent pas eux-mêmes les engagements qu'ils ont pris. La deuxième chose, c'est que on a un droit, vous, moi, vos auditeurs, vos auditrices, on a un droit à un climat stable qui existe. Et ce climat stable, ce droit-là, il doit être respecté par les dirigeants qui mettent en œuvre les grandes politiques publiques dans notre pays, en termes de transport, de bâtiments, d'agriculture, et j'en passe. Et donc, voilà, c'est un vrai changement dans l'histoire de la France. Je veux juste dire aussi que dans le monde, cette vague de procès est en pleine émergence.
Oui.
On a déjà gagné ce type de procès chez nos voisins aux Pays-Bas. On a gagné aussi au Pakistan, on a gagné en Irlande, on a gagné en Colombie, on a gagné récemment en Allemagne. Et donc la France est l'un des premiers pays où c'est en train de bouger, mais on est en train vraiment de faire bouger le droit et le climat au niveau international.
Alors selon vous, Madame la députée, justement, puisque vous parlez que la France aussi doit là-dessus jouer un rôle, selon vous, Madame la députée, qui a joué ce rôle important dans cette affaire ? Est-ce que c'est les associations ? Est-ce que c'est le citoyen ? Est-ce que c'est le politique ? Qui ? Est-ce que c'est la société civile ? Qui ? Est-ce que c'est la pétition en ligne ? Qui c'est ?
Ben alors de notre côté, c'est sûr que les associations qui ont porté cette affaire en justice ont eu le courage de s'affronter à l'État sur un sujet aussi important, avec un droit qui n'existait pas vraiment. Donc on est allé chercher le courage des juges, et donc les juges ont aussi joué un grand rôle, mais évidemment, le soutien de 2,3 millions de citoyens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était au moment où les jeunes marchaient dans les rues, où il y avait des manifestations régulièrement, où on sentait une vraie aspiration à agir pour le climat, et donc ces 2,3 millions de citoyens, ils ont définitivement pesé sur la justice, sur les juges qui ont mis en place, qui ont pris ces décisions-là, et quand même, c'est aussi en même temps que le mouvement des Gilets jaunes.
Et le mouvement des
Gilets jaunes. Ouais. Des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, il disait attention, la taxe carbone, elle est là pour agir pour le climat. Nous, on est d'accord pour agir pour le climat. On pense qu'il faut agir plus, mais on pense que ça doit pas reposer de manière disproportionnée sur ceux qui n'ont déjà pas les moyens de vivre.
Alors vous nous dites, Madame la députée Marie Toussaint, vous nous dites effectivement ce combat pour le climat, ce combat pour l'environnement, ce combat évidemment qu'on a bien compris, qu'on a bien saisi. Il y a là, c'est pas un enjeu, il y a là une urgence. Alors, est-ce que le gouvernement aujourd'hui, vous pensez qu'il tend suffisamment l'oreille ? Pour quelle raison d'ailleurs il fait la sourde oreille ? Tiens, je vous pose la question.
Oui, c'était ça. Et donc, quand on a lancé l'affaire du siècle, il y avait les Gilets jaunes en même temps, et le gouvernement, tout ce qu'il a trouvé à répondre, c'est de nous dire mais en fait, c'est les Gilets jaunes contre les Gilets verts, c'est les écolos qui sont de notre côté à essayer de protéger le climat contre les Gilets jaunes. Donc nous, on a dit non, on est ensemble et on vous dit il faut agir plus vite et il faut faire reposer le plus gros effort sur les plus gros pollueurs qui sont aussi les plus riches, notamment les entreprises et évidemment les politiques publiques qui permettent d'agir ou pas contre le climat. Le problème, c'est que dans la suite, dans la foulée, ce qu'a fait le gouvernement, c'est pas agir plus, c'est changer les textes de loi, de sorte à ce que chaque année, il y ait moins d'efforts à faire pour l'État, et comme ça, à la fin, ils peuvent revenir voir le juge et dire « Mais regardez, on a respecté les engagements qu'on avait pris. » Alors que c'est pas vrai. Les engagements qui étaient là au moment du lancement de l'affaire du siècle, ils étaient plus élevés que les engagements qui sont aujourd'hui dans la loi. Pourquoi ? Parce que suite au lancement de notre action, ils ont diminué le quota qu'on devait atteindre. Voilà. Donc le gouvernement ne fait pas seulement la sourde oreille, mais c'est qu'il rétrograde dans sa volonté de lutte contre le dérèglement climatique.
Dites-moi, Madame la députée, justement, comme vous, vous êtes l'une des initiatrices de cette affaire du siècle, qui est qualifiée en tout cas d'affaire du siècle, comme vous venez de nous l'expliquer ici dans Les Informés sur Beurre FM, Quelles sont les priorités qui vous attendent prochainement? Quand je dis prochainement, c'est dans les semaines à venir, concernant l'urgence du climat, concernant l'environnement, concernant les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc., madame la députée européenne.
Alors, il y a plusieurs actualités qui viennent. Là, les associations et puis tout le monde attend le jugement qui sera à peu près dans 10 jours. Dans 10 ou 15 jours, selon comment les juges travaillent. Et puis, il y a aussi un sommet international qui commence dans quelques semaines à Glasgow, qui sera une nouvelle COP, donc un peu comme l'accord de Paris, la suite de l'accord de Paris, où les États doivent discuter de qu'est-ce qu'on fait ou pas pour protéger le climat. Et puis, dans le cadre de l'Union européenne, on est tous en train de réviser nos politiques climatiques. Et donc, c'est le moment de rehausser les objectifs climatiques qui sont les nôtres pour pouvoir respecter l'accord de Paris. Pour l'instant, la France est sur une trajectoire qui nous mène à un réchauffement de plus 2,6 degrés.
Ah oui,
donc vous voyez bien qu'il faut accentuer les...
Alors qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs partout en France qui vous écoutent? Vous leur dites quoi? Pour évidemment, comment dirais-je, les sensibiliser, mais peut-être qu'on ait des réflexes dans notre quotidien aussi également.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour protéger le climat, si tout le monde s'y mettait et faisait plein de petits gestes, on ne résoudrait que 25% du problème.
C'est
les
75
beaucoup, hein. autres pourcents, voilà, c'est les politiques publiques et la manière dont on encadre les acteurs privés. Donc, dans votre vie quotidienne, tous les efforts que vous pouvez faire, faites-les. Dès que c'est pas trop compliqué, effectivement, éteignez votre robinet, prenez votre vélo, voilà. Dès que vous pouvez le faire, faites-le. Mais le gros du travail, il doit être fait par les entreprises. Et je pense, par exemple, à Total.
C'est vrai, quand vous me dites éteignez le. Mais c'est tout bête. Par exemple, vous êtes en train de me parler de l'eau du robinet. C'est vrai qu'on a tendance parfois à laisser l'eau du robinet traîner, ou parfois même quand on prend notre douche, à s'étaler pendant 20-25 minutes. Ça s'appelle du gaspillage. Et vous avez raison de le souligner. C'est aussi ça, l'environnement.
Oui, il y a aussi le gaspillage alimentaire, le fait de laisser ses appareils en veille plutôt que de les éteindre. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne. Il y a plein de sites qui vous expliquent ça. Donc tout ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas. Mais le gros, c'est les entreprises, par exemple Total, les banques qui continuent d'investir dans les énergies fossiles, parfois en bafouant les droits humains. Ça, vous pouvez avoir des opérations de boycott de votre côté. Et puis, il y a les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est sur la rénovation des logements, sur les transports, mais aussi sur l'encadrement de ces entreprises. Et donc là, je finis par un message politique, mais il y a des élections qui viennent bientôt. Et c'est important de voter pour les écolos, parce que les écologistes, ce sont ceux qui prennent vraiment à bras le corps cette question du dérèglement climatique.
Vous pensez vraiment, parce que j'ai l'impression que... et le sentiment que tous les politiques aujourd'hui se sont emparés de la question.
Ben, c'est pas tout à fait juste. Vous voyez, moi, au niveau du Parlement européen, j'ai mes collègues, la semaine dernière, de quasiment tous les groupes politiques qui ont voté en faveur de la poursuite du soutien au gaz. Et le gaz, on dit parfois, oui, ben, c'est mieux que le charbon, que le pétrole. Non, le gaz, c'est extrêmement polluant. Il faudrait qu'on en sorte. D'ailleurs, on voit bien que les prix explosent aujourd'hui parce qu'on importe notre gaz de l'étranger et parce que les énergies renouvelables sont bien moins chères et que le prix du gaz est bien au-dessus, mais que les énergies renouvelables ne sont pas assez développées. Elles permettraient de baisser considérablement le coût de la vie. Voilà, donc la plupart des groupes politiques soutiennent encore les énergies fossiles.
Bon.
Voilà, donc c'est vraiment les écolos qu'il faut soutenir.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Et puis surtout, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'une des initiatrices justement de cette affaire du siècle concernant cette procédure administrative. Et vous attendez donc, quand est-ce qu'elle tombe la décision?
Dans 10 jours. Les associations la recevront dans 10 jours.
Dans 10 jours, nous allons suivre ça. Voilà. Merci Marie Toussaint, vous êtes
merci
la députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci et au plaisir.
Au revoir.
Au revoir, 19h13. C'est vrai que la députée européenne... Mais c'est vrai, la question du... Tiens, d'ailleurs, je vais ouvrir l'antenne sur là-dessus. Je voudrais vous entendre 01 53 48 3000. Le gaspillage d'eau, gaspillage alimentaire. Est-ce que vous prêtez attention à tout cela? Est-ce que vous éduquez vos enfants? Est-ce que vous éduquez votre entourage à leur dire non, pas de gaspillage alimentaire? Non, l'eau ne doit pas être gaspillée. Parfois, on a tendance à laisser le robinet ouvert pendant de longues secondes comme ça. Est-ce que vous avez des réflexes, justement, dans ce sens? 01 53 48 3000, je vous attends. Et puis, nous allons recevoir aussi un autre invité tout à l'heure, direction Nantes. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Ben oui, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, nous sommes dans les informés jusqu'à 20h ensemble pour commenter l'actualité. Et tout à l'heure, c'est le face-à-face, l'invité actuel tout de suite.
Les informés, l'interview.
L'interview avec l'actualité à Nantes qui commence à évidemment à prendre forme. Elle est une actualité aussi, parfois on on peut s'interroger sur évidemment certaines choses. Le proviseur du lycée professionnel donc à Rago, au nord de Nantes, qui a décidé de faire porter évidemment une affaire concernant un centre pour réfugiés politiques dans son lycée. Et le projet, on va poser la question, n'a pas l'air de passer. Le proviseur est avec nous, c'est Monsieur Gérard Legrand. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur le proviseur, dites-moi en quelques mots, une résidence, c'est ça, un centre pour réfugiés politiques en plein cœur de votre lycée, à Ragon, à Nantes, monsieur le proviseur, que s'est-il passé? Racontez-nous.
Alors, en effet, j'ai appris d'une manière très fortuite l'installation d'une résidence sociale par la préfecture, qui souhaite installer au cœur de notre établissement une résidence sociale pour migrants, réfugiés politiques ou jeunes. Voilà.
Mais dites-moi, alors, on vous a informé, monsieur le proviseur ?
Non, alors j'ai appris d'une manière fortuite, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que on est mis devant le fait accompli. Alors moi je comprends bien la politique d'accueil du gouvernement, mais j'en suis loin d'être contre, parce que tous les jours on accueille des jeunes, nous, dans notre lycée professionnel, qui ont besoin d'être formés, qui sont sans papier, des mineurs isolés, des jeunes PJJ. Un établissement scolaire, c'est un centre de formation, c'est un centre d'accueil pour des contenus éducatifs, des savoirs, savoir-être, mais pas pour accueillir un centre d'hébergement.
Je vous pose la question, parce que je connais pas votre lycée, mais je vous pose la question. Est-ce que votre établissement lui-même, la préfecture, le préfet lui-même s'est posé la question si c'est un lieu adapté?
Alors, on est en train de travailler. Ça fait du bruit, ça commence à faire du bruit. Hein. Je suppose que vous m'appelez parce que vous avez vu l'article.
Absolument.
Dans la presse
aujourd'hui. Oui, j'ai appris cela. Oui, effectivement, dans Ouest France.
Voilà, c'est ça. Il y a un article qui est paru aujourd'hui dans l'Ouest de France. On est en négociation avec la préfecture, hein, qui jusqu'à maintenant ne négociait pas, c'est-à-dire que c'était un fait établi. Et là, je pense que depuis 24-48 heures, j'espère qu'il va y avoir une négociation et un retour, je dirais, au raisonnable, parce que c'est pas envisageable de pouvoir mettre ça au cœur d'un établissement scolaire qui n'a pas cette vocation.
Alors, est-ce que, si j'ai bien compris, je vous pose la question, monsieur le proviseur, monsieur Gérard Legrand, est-ce que comment les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, ont accueilli évidemment, est-ce qu'ils protestent, comment ils accueillent évidemment ce centre pour réfugiés politiques?
Alors, les élèves ne sont pas encore au courant de ça. Les parents.
Ça va faire du grabuge tout ça.
Je pense. Alors, les parents sont au courant puisque c'est eux qui sont à l'initiative de l'article ce matin dans la presse. Les enseignants, je sais qu'ils posent vendredi, une heure syndicale en vue de préparer un mouvement justement pour expliquer que ce genre de choses va être très complexe et irraisonnable dans un établissement scolaire. Donc, parents, une communauté éducative, c'est aussi des agents région. Je sais que les agents de la région, les agents de maintenance, les agents de nettoyage de l'établissement sont venus me voir. J'ai eu déjà deux réunions avec les représentants syndicaux et je sais que l'ensemble de la communauté éducative est venu me voir pour me dire qu'ils s'opposaient au projet.
Là, on parle de combien ? On parle de combien de personnes qui sont hébergées dans ce centre de réfugiés?
Alors, ça sera toutes sortes de personnes, mais on parle d'une centaine de personnes sur 800 mètres carrés.
Ah oui, quand même, avec centaines de personnes.
4 et 5 étages d'Algeco. Hein, donc, il y aura un échafaudage sur ces 800 mètres carrés d'Algeco sur un parking, le parking visiteur de l'établissement.
Alors, si j'ai bien compris, les parents d'élèves protestent, les élèves ne sont pas au courant pour le moment. Vous-même, non. Est-ce que vous avez interpellé les différentes autorités publiques, monsieur le proviseur?
Bien sûr, parce que comme je l'ai appris d'une manière fortuite, j'ai tout de suite téléphoné aux différentes autorités, Nantes Métropole, bien sûr j'ai averti le rectorat, j'ai averti la région, hein, puisque le site, les bâtiments sont gérés par la région, mais la spécificité de notre site, c'est que le terrain appartient à l'État. Au moment de la décentralisation, normalement, actuellement, les lycées ont récupéré les terrains, sauf que sur ce site, il y a à la fois un mélange d'un lycée et de l'INSPE, des centres de formation pour jeunes professeurs. Et l'État a gardé le terrain.
Est-ce que ça risque de déstabiliser, si vous voulez, les conditions de travail ? Je vous pose la question, monsieur le proviseur.
Alors, oui, je pense que oui, parce que les élèves, la population scolaire, c'est une population, surtout en lycée professionnel, et en plus de l'industrie, c'est fragile, c'est sensible, et puis c'est vite déconcentré et c'est vite attiré par autre chose. Ouais. Quand un élève rentre dans l'établissement scolaire, il doit laisser tous ses problèmes de quartier à la porte du lycée, et quand il rentre à l'intérieur, c'est pour travailler, avoir une formation professionnelle, on forme le futur citoyen de demain, autonome, et libre d'opinion, et pour ça, il a besoin de sérénité. Et un établissement scolaire doit lui apporter la sérénité, ainsi qu'aux familles.
Dites-moi, monsieur Gérard Legrand, monsieur le proviseur, qu'attendez-vous aujourd'hui, à la fois de l'éducation nationale, peut-être, qu'est-ce que vous attendez des autorités publiques, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que lycée, en tant que proviseur, pardon, qu'est-ce que vous attendez, évidemment, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines?
Alors, je suis en négociation avec la sous-préfète du département. Je comprends très bien sa position. Les terrains sont très très difficiles à trouver. Donc, va falloir. Ce que j'attends, c'est qu'ils trouvent une autre solution que ce terrain à l'intérieur. Je le répète, du site de l'établissement. Et ça, j'espère que le préfet, la sous-préfète vont revenir sur leur décision quand ils verront que ça va être compliqué, quoi. Voilà.
Dites-moi, monsieur le proviseur, vous discutez beaucoup avec les parents d'élèves ?
Oui, j'ai...
Qu'est-ce que vous échangez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'ils vous disent aussi, à l'inverse ?
Les parents d'élèves sont inquiets. J'ai déjà des parents d'élèves élus au conseil d'administration qui m'ont dit que si ça se faisait, ils retireraient leur élève, leur enfant. Bon, là, c'est une nouvelle qui est arrivée, comme on l'a appris assez brutalement, si vous voulez. Bon, c'est une nouvelle qui nous a surpris tous, quoi.
Ouais, ouais.
Mais les parents sont très, très inquiets de ce genre de choses à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et je ne vous cache pas que la communauté éducative ne comprend pas cette décision.
Oui, ils ne comprennent pas cette décision. Bon, qu'est-ce que vous allez tenir comme discours à vos élèves ? J'imagine, quand ils vont l'apprendre, comment vous allez gérer cette situation, monsieur le proviseur ?
Bah, écoutez... j'espère quelque part qu'ils ne l'apprendront pas, puisque j'espère vraiment arriver à raisonner la préfecture pour que, bien sûr...
vous savez, ça va vite, hein.
Un autre terrain. Oui,
ouais. Ouais, l'information tourne vite, ça va vite, hein. C'est des lycéens, hein, on ne parle pas de primaire, là.
Déjà, je leur dirais que pour leur travail, leur tranquillité, leur concentration, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour éviter que cette résidence s'installe au cœur de l'établissement.
Bon.
Et que nous, personnel administratif et nous, direction de l'établissement, on va œuvrer pour qu'ils gardent leur tranquillité et leur sérénité d'apprentissage.
Je compte sur vous, monsieur le proviseur, monsieur Gérard Legrand. Vous êtes donc le proviseur au lycée Arago, sur la ville de Nantes, où justement il y a une polémique qui prend forme concernant un centre pour réfugiés politiques en plein cœur de votre lycée Arago. Et le projet, je dois le dire, il ne passe pas du tout auprès des parents d'élèves et tous les autres, et de la direction aussi qui proteste. Vous nous tenez au courant, monsieur le proviseur ?
Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, surtout.
Je vous en prie. Merci.
À très bientôt. 19h30, avant de retrouver le face-à-face, Rudy Kazi, je vais les saluer. Bonjour Rudy Kazi.
Bonjour Adil.
Bonjour Adil, Philippe Nadjibouriaki.
Bonjour Adil et aux auditeurs.
En forme, messieurs.
Oui, ça va.
Bon, ouais. Super. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans une poignée de minutes. Et cela, c'est après le...
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9. Et on est mercredi. Qui dit mercredi, c'est au jour du docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôtel Invalide chez les militaires et auprès du SAMU, me semble-t-il aussi. Hein.
Tout à fait.
Quelle casquette, fierté, hein, tout cela. Hein. Monsieur le docteur, docteur, vous avez décidé de consacrer votre carte blanche billet d'humeur sur la panne mondiale concernant Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. On vous écoute.
Eh bien, écoutez, cette semaine, Facebook a été récompensé du prix Nobel de physique pour ses travaux sur les trous noirs. Et oui, grâce à un petit bug, l'humanité a retrouvé une part de sa liberté et a eu droit à un bon retour vers le passé. Cette époque bénie où vous, Adil, jouiez au Rubik's Cube au lieu de mettre des photos de vos gâteaux d'anniversaire ou de vos dernières soirées.
C'est vrai en plus, vous avez raison, docteur.
Ou de votre dernière soirée dans un cabaret branché où vous cherchiez l'âme sœur. Si possible en CDD.
Il est fou ce docteur, mais vous croyez que je fréquentais les cabarets ou quoi?
Dans un cabaret branché, disais-je, où vous cherchiez l'âme sœur, si possible en CDD, et de moins de 30 ans.
Vous me cherchez des emmerdes, je vous écoute.
Des photos, disais-je, que vous montrez au monde entier, comme des milliards d'utilisateurs, qui ont découvert grâce à un de ces grains de sable qui me rassure, sur ce qui se passait de leurs réseaux sociaux, ou de leurs groupes sociaux de discussion, où la préoccupation principale, et non pas la pollution générée par ces nouvelles technologies, qui à elles seules, rappelons-le, consomment 10% de l'énergie électrique mondiale, et produisent 4% des rejets de CO2, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va manger ce soir?
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Facebook, on en a eu confirmation cette semaine, ce serait plutôt Facebook.
Vous êtes un fou.
Non pas que je veuille faire un de ces jeux de mots que vous appréciez tant, oui. Domaine dans lequel vous excellez vous-même, oui. Et qui ont fait votre popularité auprès des secrétaires de la rédaction,
qui
sont toutes folles de vous. Facebook, car on a appris cette semaine au cours d'une audition de Frances Haugen, une ex-ingénieure de Steve Zuckerberg, l'homme qui nous avait expliqué que la vie privée n'existait pas,
oui.
Audition devant le Sénat américain où elle a fourni des milliers de pages de documents où elle compare Facebook et Instagram dans leur pratique à celle de l'industrie du tabac,
oui.
Qui a fait passer ses profits en montant, en trafiquant les études devant la santé des consommateurs. Elle demande qu'on impose aux médias sociaux la même régulation qu'aux cigarettiers ou aux fabricants de voitures qui ne pourraient vendre aujourd'hui un véhicule sans ceinture de sécurité. Cette lanceuse d'alerte accuse le géant des réseaux sociaux d'avoir fait semblant d'ignorer les problèmes causés ou majorés par leur application, notamment ceux qui ont un impact sur la santé mentale des adolescents ou ceux ayant permis à des groupes mafieux de recruter des gens qui, par exemple, pour le trafic d'êtres humains, en clair, la prostitution et l'esclavage. Ces accusations et cette panne géante devraient nous amener, et notamment vous, Adil, j'insiste, à réfléchir sur notre comportement envers ces faux amis que sont devenus nos smartphones et ces applications qui sont souvent animées par une chasse au profit, à la pensée facile, avec les conséquences que l'on mesure de plus en plus sur la propagation de toutes les idées extrêmes et de la souffrance mentale.
Je vous remercie. C'est vrai, vous avez raison. Finalement, dites-moi, docteur, vous êtes d'accord avec Jacques Attali? Parce que Jacques Attali dit, il a posté quelque chose en anglais où il dit Facebook down, it's a piety that this outage didn't last long enough for everyone to really realize that we can perfectly do without Facebook. En gros, avec mon accent mortel
vous... de Mantes-la-Jolie.
Moi, exactement, hein, n'est-ce pas? Vous savez que nous, notre accent, il est terrible. Hein. Il veut dire, en gros, si j'ai bien compris, que dommage que ça n'ait pas pu durer plus longtemps, parce que ça aurait été profitable pour tout le monde. En gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Et de se passer de réseaux sociaux,
c'est enfin, en gros,
notamment
c'est ça.
De Facebook, c'est ce que je fais depuis des années.
Ouais, vous avez vu? J'ai un accent Arafat, tu sais, docteur.
Arafat, oui. C'est
exactly, it's a very problematic for me. N'est-ce pas, nous non, allons oui. faire. La prochaine fois, nous ferons la chronique en anglais, tiens.
Why not? I would be very glad to do that.
Exactement. Je vous kiffe, docteur. Vous êtes le meilleur. Comment ça va dans les hôpitaux? Ça se passe bien, là? Les hôpitaux publics sont pas un peu malades, les hôpitaux publics? Parce que j'entends de plus en plus que les soignants sont mécontents.
Ben, c'est pas faute d'avoir lancé des alertes depuis des années, mais les hôpitaux publics sont très, très malades et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de remède immédiat. Et finalement, la santé...
Vous croyez que je ne vous suis pas là sur Twitter? Vous êtes en train de mettre le paquet sur Twitter, n'est-ce pas?
Écoutez, moi je suis un lanceur d'alerte et un fervent défenseur du service public hospitalier dans lequel je suis engagé depuis plus de deux décades.
Il en faut encore, comme vous, effectivement. Merci docteur, à mercredi prochain sans faute.
Avec with a great pleasure, I will be present.
Oui, thank you very much, al professeur. À bientôt, 19h35, nous allons nous retrouver dans une poignée de minutes avec le face-à-face. Philippe Nadjibouriaki. Et enfin, Rudy Kazi, justement sur trois sujets qui ont secoué, qui ont retenu notre attention cette journée, justement. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h38, dernière ligne droite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Philippe Nadjibouriaki, conseiller régional. Bonjour, comment ça va?
Bonjour, Adil.
Europe Écologie Les Verts.
Ouais, évidemment.
Plus que jamais.
Face
à lui, Rudy Kazi, qui est un élu aussi. Bonjour, comment ça va?
Très bien, Adil, et vous?
Très bien, je vous remercie infiniment. Trois sujets. Le premier, d'ailleurs, le nouveau sondage explosif où Éric Zemmour passe pour la première fois devant Marine Le Pen. Est-ce que cela inquiète le monde, Philippe Nadjibouriaki?
L'univers, même, carrément.
Et risque même de se retrouver. Non, mais attendez. Il peut se retrouver face à Emmanuel Macron pour la première fois.
Ouais, enfin, là, on nous raconte une histoire. En une semaine, le type, il n'a pas dit un mot, il a pris 9 points. C'est juste extraordinaire. Je voudrais juste qu'on se calme avec les sondages.
Il n'a pas dit un mot, il est toujours sur les plateaux. J'aime bien.
Non, les plateaux sont sur lui plutôt. Maintenant, je crois qu'il faut arrêter le focus sur Éric Zemmour parce qu'il a donné le ton et tout le monde court après lui. Et quand vous courez après l'original, les gens n'ont pas tendance à voter pour la photocopie.
Mais 17%, 18%, non, ça vous.
Non, pour moi, pour l'instant, ça me laisse de marbre. Je suis persuadé que les Français vont réatterrir. Toutes celles et tous ceux qui ne s'intéressent pas aujourd'hui au quotidien parce qu'ils ont d'autres problématiques à la politique pour eux. Autant de nos parents, 6 mois, c'était demain. Autant pour les générations aujourd'hui, 6 mois, c'est dans 10 ans. Donc, on a vu des bouleversements rapides. Ça va super vite. Je te le dis, regarde, en une semaine, il a fait 2 conférences, une pour vendre son bouquin et une pour avec Michel Onfray. Et d'ailleurs, les gens payent 45€ pour aller entendre le thème de la radicalité. Alors, du coup, là, il y a un business à faire. Donc, on va se creuser les ménages, mais blague à part.
Il passe devant la droite, il passe devant tout le monde.
Dès qu'on va parler de fond et de programme.
Ouais. Mais en attendant, quand même, il passe devant la droite, il passe devant la gauche, il passe devant tous les partis.
Il court après les
partis
autres.
Classiques, traditionnels. Rudy Kazi.
Ouais, en fait, il profite d'un espace.
Doit-on voir là une analyse très pointue.
On va essayer. Il profite d'un espace que Emmanuel Macron lui a ouvert. Effectivement, en tuant la gauche et la droite, entre guillemets, hein, passez-moi l'expression. Il a ouvert un champ vers Emmanuel Macron, d'autant plus que je pense que les débats s'extrême-droitisent, ou en tout cas se droitisent énormément en France. Quand on voit dans les sondages qui occupent le plus en plus les Français, outre le pouvoir d'achat, etc., il y a aussi les questions de sécurité, peut-être une sorte de conséquence des attentats. Donc du coup, il en profite. Maintenant, il dira jamais qu'il est là aussi grâce à Emmanuel Macron. Et le fait pour lui, effectivement, de tuer cette extrême droite ou la droite de façon générale, c'est parce qu'effectivement, il n'y a plus de leader charismatique. Et il espère être une sorte de Gaulle, enfin en tout cas quelqu'un de droite qui fait converger un petit peu toutes les droites en rognant un petit peu sur les terres de Marine Le Pen. Et c'est normal qu'il prenne des voix à Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui s'exprime dans un discours qui n'est pas politisé. C'est un polémiste, donc ça veut dire qu'entre guillemets, il parle avec son cœur. Et c'est peut-être ce qui intéresse les Français, de se dire qu'ils ont en face quelqu'un qui n'est pas robotisé par la politique. Et sur ça, on est obligé de trouver ça, entre guillemets, plutôt intelligent. Maintenant, il est en train de se politiser. Et il n'a pas encore déclaré sa candidature sur certains débats. C'est plutôt un puncher, etc. Donc, on n'a pas encore le calme. Je voyais une émission sur, je crois que c'était sur les grandes gueules où il se s'embrouillait avec Charles de Consigny, avec Consigny, c'est ça? Il était grossier, quoi. Je m'en fous, ceci, cela, parce que Consigny, lui le poussait un peu dans les cordes. Donc, on voit que la posture présidentielle, c'est-à-dire l'homme d'État, ce n'est pas encore quelque chose qu'il est capable de porter. Mais est-ce que ça l'empêchera de gagner? Si jamais il arrive au second tour, et c'est ce qui risque d'y arriver, de se passer, d'autant plus que effectivement il y a eu un croisement dans les sondages, ça va beaucoup trop vite. Donc si jamais il réussit à se retrouver au second tour, ce qui est tout à fait possible, le débat de l'entre-deux-tours risque d'être déterminant. On sait que c'est ce qui fait la victoire ou pas lors de l'élection présidentielle. Alors il y aura certainement un front républicain qui risque effectivement de se mettre en branle pour faire blocus contre Éric Zemmour, mais en même temps, s'il donne l'impression d'être la voix des sans-voix, entre guillemets, un petit peu comme les avocats qui portaient la voix des gilets jaunes, alors que au prime abord il n'avait rien à voir avec les gilets jaunes.
Pour vous, clairement, Zemmour, c'est la voix des sans-voix.
Ben non, c'est-à-dire en fait, dans
si
sa
c'est la
campagne,
voix des sans-voix, c'est la voix aussi des gilets jaunes alors.
Ben, je pense qu'il veut incarner la voix des Gilets jaunes. Ouais. Et comme la campagne n'a pas encore commencé, il essaye de prendre cet espace-là. Maintenant, s'il arrive à capter ces voix qui sont souvent des voix abstentionnistes, de la France d'en bas, entre guillemets, pas le vote des quartiers, évidemment, ça risque d'être très, très serré avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, peut gagner la présidentielle, mais peut-être que les législatives, au regard peut-être de son bilan, peut-être au regard aussi du juge de paix que sera la gestion de la Covid-19, ça pourrait être kiff-kiff cousin, passez-moi l'expression, et donc de perdre les élections législatives. Donc, moi, en face, c'est pas une arnaque ou quelqu'un, en fait, dont il faut pas se méfier. Éric Zemmour, pour moi, c'est un candidat non déclaré, mais qui est déjà sérieux pour les présidentielles.
Mais a-t-il la stature?
Oui. Moi, je pense que.
Pour moi, non, clairement.
En tout cas, en tant comme détail, il ne l'a pas. Mais maintenant, dans les débats, il arrive en fait à véhiculer une idée, comme tu disais, de représenter des personnes qui veulent, au travers de Zemmour, dire tout haut ce qu'eux pensent tout bas. Ouais. C'est ça aussi le truc. Tu vois.
Bien sûr.
Messieurs, nous allons parler toujours d'Éric Zemmour, justement, parce que Éric Dupond-Moretti s'en prend justement à Zemmour, qui le qualifie de raciste, négationniste. Il s'est un peu lâché sur la chaîne de BFM TV. C'était hier, justement, le ministre de la Justice, qui a fustigé le comportement de l'écrivain et polémiste. Qu'est-ce qu'il cherche, Éric Dupond-Moretti? Écoutez son propos.
Est-ce que Éric Zemmour est raciste selon vous ?
Ça me paraît clair, non ? Raciste, négationniste, condamné par la justice de notre pays pour des faits d'incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Est-ce qu'il est un danger aujourd'hui pour la France ?
Je ne sais pas, monsieur. J'espère que certains vont ouvrir les yeux.
Enfin, tournez pas autour du pot.
Je ne tourne pas autour du pot.
Est-ce qu'il est un danger pour vous, selon vous, pour la France ?
Monsieur, je viens de vous répondre, j'espère que l'on va ouvrir les yeux. Pour le moment, Monsieur Zemmour, il est polémiste, de talent, journaliste.
Polémiste, comme vous voulez dire, c'est vrai, voilà. Pas encore candidat, pas encore politicien.
C'est lamentable.
Ouais, c'est lamentable.
Parce qu'il n'y a pas d'argument.
Oui,
il essaie de dramatiser, en fait, la question. Il ne faut pas la dramatiser. Ouais. Zemmour, c'est quelqu'un qui dramatise, mais avec des idées, des arguments. En face, il faut opposer des arguments. Comment est-ce qu'on peut dire de telles choses? Voilà, par exemple.
Ah, mais en même temps, c'est une réalité. Il a été condamné quand même par la justice.
Mais c'est vrai, mais regarde Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, il a été président.
Je veux dire.
Il a été condamné par la justice.
On est bien clair qu'aujourd'hui, ils sont là, ils motivent son credo. C'est les musulmans, les gens dans les quartiers, l'islam, la radicalité. Et donc, il n'a rien d'autre dans sa besace, si je peux me permettre l'expression. Et moi, je rajouterais qu'il est aussi misogyne, homophobe. Enfin, voilà, tous les ingrédients réunis qui ressemblent à ce qui s'est passé en 33 en Allemagne. Donc, moi, je pense réellement que les Français et les Françaises vont réagir. Mais simplement... je voudrais dire un message à toute la classe politique. Rudy, il a raison tout à l'heure sur ce qu'il a dit, sur la nouveauté, la fraîcheur, entre guillemets. Quelqu'un qui parle comme le peuple. Tu retrouves les discussions de Zemmour, tu les retrouves dans les comptoirs de bistrot, tu vois, en fin de soirée, quand les mecs, ils ont défoncé une dizaine de demi. Et la réalité, elle est là. C'est que les gens en ont marre du discours élu coloré, qui ressemble, qui est lisse, ouais. C'est tous les mêmes.
Pas besoin
et puis
de
surtout,
défoncer votre,
et puis,
comme le dit votre expression d'une dizaine de demi, pour pouvoir évidemment avoir la pensée.
Au bout du cinquième. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, on paye aujourd'hui les conséquences de plus d'une cinquantaine ou soixantaine d'années de mensonges, de politiques qui te promettent la lune et qui te racontent après la misère. Et donc les Français aujourd'hui sont en mode vote sanction, dégagez-moi toute cette classe-là et appellent de leur vœu à un renouveau et à une fraîcheur. Moi je suis désolé.
Vous êtes surpris par les propos du ministre de la Justice?
En fait, je suis pas surpris, mais je suis plus ou moins consterné. Je trouve que ça manque de fond, je trouve que ça manque d'arguments. En fait, il se retrouve dans le même registre qu'il a l'habitude d'opposer au Front National, enfin en tout cas à l'époque le Front National. C'est des racistes, c'est ceci. Mais en fait, ça n'imprime plus ce genre de choses. Il y a des idées, en fait, que le Front, ou plutôt que le Rassemblement National a véhiculé, mais qui sont aussi, en fait, à analyser en fonction des gens qui portent, c'est-à-dire du peuple qui porte ces aspirations-là. Exactement de la même manière qu'Emmanuel Macron va regarder les sondages, qui va penser que, par exemple, telle mesure peut être porteuse parce que les sondages le disent. Eux aussi, ils font pareil. C'est-à-dire, c'est au gré. C'est de l'électoralisme, en fait.
Allez,
donc, c'est vraiment au gré des élections. Et juste pour terminer là-dessus, moi, je trouve qu'effectivement, faut poser des arguments. Et c'est un avocat. Où sont les arguments? Lorsque Zemmour dit, par exemple, que c'est mieux d'avoir un prénom français. Moi, j'ai un prénom, on va dire, européen. Je m'appelle Rudy, diminutif l'équipe de Rudolph, ça m'a pas empêché de subir le racisme. Donc le racisme, c'est pas par rapport au nom, c'est par rapport à la perception du.
Ah mais quand tu rajoutes en plus le nom,
c'est vrai que ça peut être.
Tu rajoutes vraiment
aussi.
Mais
par exemple,
attends.
Comme moi, ça m'a pas empêché de subir le racisme. Donc si maintenant tu t'appelles Mohamed,
non mais d'un degré inférieur. Moi, je l'avais dit sur cette antenne. J'avais dit justement quand j'envoie un CV au nom de Nadji et un autre au nom de Philippe, Nadji n'a jamais de réponse. Et des fois, on s'est amusé d'ailleurs en testing à mettre des diplômes supérieurs.
Non, mais je suis d'accord. Donc, mais après,
même pas
regarde
de
les Antillais.
Négatif.
Regarde, moi, mon épouse, elle est d'origine antillaise. Les Antillais, ils ont des noms a priori français. Mais quand on les reçoit en entretien,
ils
se rendent compte de qui ils sont. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que à minima, ça peut plus ou moins aider. Mais en fait, lorsqu'on a la réalité en face, mais c'est fini. C'est-à-dire, le masque tombe, en fait. Donc, c'est pas avec ça qu'on va résoudre la question du. Donc, lui, il veut de l'assimilation, de l'autre côté, il résout pas le problème du racisme, en fait, parce que ça l'intéresse pas. Il parle pas à cet électorat-là. Mais moi, je pense que on politise trop cette histoire, en fait, d'identité.
Et puis,
à un moment donné,
il y a un autre problème.
Il faut, en fait, pour moi, la question de l'identité, c'est en fait la réconciliation de la France. Une France qui, effectivement, se sont pas totalement
Mais elle n'est pas réconciliée. Pourquoi, Rudy?
Mais parce qu'en fait, elle est tout la question.
Non, pour une chose. Pour une chose.
Les gens,
non,
par exemple, comme Éric Zemmour, ce sont des gens, en fait, qui ne veulent pas réconcilier.
Couper le micro.
Non, mais c'est juste que je veux juste aller.
Non, je veux dire que depuis.
Non, mais c'est pas mal.
Non, mais il y a un autre phénomène. Il y a un autre phénomène qui a commencé déjà depuis un moment où les médias mainstream voulaient faire une bipolarité entre Macron et Le Pen pour faire gagner Macron au deuxième tour. La réalité, elle est que depuis qu'on l'a débarqué de CNews, tous les médias ne parlent que de lui, il n'y a pas de place pour les autres. Et forcément, quand tu fais que diffuser une seule pensée et une seule idée, le français moyen qui est derrière sa télé, il se dit, c'est ça, puisque tout le monde s'engouffre dedans. T'as bien vu comment Pécresse aujourd'hui fait la course à l'échalote. Xavier Bertrand, il est monté un cran plus haut. Marine Le Pen rajoute
Emmanuel
Macron.
Ça sert les intérêts d'Emmanuel Macron.
Complètement. Je l'ai dit la semaine dernière.
Mais c'est un gros risque, parce qu'il risque de l'avoir au second tour. Et dans le débat, ça risque pas d'être Marine Le Pen.
Non, mais même sans débat, moi je suis persuadé que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour qu'il perd au second tour Emmanuel Macron. C'est une certitude. Il y a une telle détestation de la classe politique.
Emmanuel
en plus,
Macron,
lui, il a raconté une histoire en disant c'est le nouveau monde. Et on va tirer un trait.
Zemmour, c'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers.
Mais il maîtrise que 4 points à tout casser. Tout le reste, il est complètement bidon. Et quoi qu'on dise, dès qu'on va dire un truc.
Après, sur les idées, je peux être d'accord, mais sur l'argumentation et sur la faconde au micro, attention.
Cette tentative.
Bon, Macron aussi,
cette tentative.
Mais c'est
très bon.
Cette
tentative.
Allez, messieurs, troisième sujet qui retient votre attention, c'est celui de Nicolas Sarkozy hier sur France 5. Plusieurs centaines de mosquées ont été créées en France. Je n'ai pas vu beaucoup d'églises ouvertes ailleurs. Tiens, Nicolas Sarkozy. Écoutons. Regardez. Petit extrait.
Sur les 20 dernières années, il y a plusieurs centaines de mosquées qui ont été créées en France. Je vois pas beaucoup d'églises qui ont été ouvertes ailleurs. Je veux dire qu'on n'a pas de leçon de ce point de vue à recevoir. Mais la question, est-ce que quand vous venez dans un pays, vous aimez sa langue, vous aimez sa culture, vous aimez son histoire, ce qui ne veut pas dire que notre histoire a toujours été impeccable. Est-ce que vous devez pas? Oui. Sinon, pourquoi vous venez? C'est pas un self-service, une nation. Une nation.
Ce n'est pas un self-service, une nation.
Énorme.
Je voudrais comprendre.
Il n'est pas en prison, lui, déjà, à la base.
Bon, dites-moi, Philippe Nadjiboyeki.
Bon,
pas de calomnie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement.
Je trouve pas.
Non, mais il a raison. Mais moi, je veux mon druide. Ramenez-moi mon druide. Ouais. Moi, je suis gaulois. Ramenez-moi mon menhir au milieu de la place de mon village. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a pris de la drogue. Je voudrais lui rappeler que la civilisation chrétienne s'est développée partout dans le monde et qu'elle a construit plein d'églises. Pardon?
Faisons attention.
Pourquoi?
Rudy Kazi.
Non, mais quand tu dis
là. À qui prend la drogue? Là, tu le vois bien que là, il n'est pas dans cet état normal.
J'en sais rien, mais en tout cas, il fait des déclarations.
Bah oui, non, mais attends. Un type comme ça qui a profité des largesses de Kadhafi pour pouvoir gagner son élection, ça n'a pas dérangé que ça venait pas d'une église, cet argent. Il devrait avoir un minimum de décence, se taire.
Il n'est pas encore.
Ça va arriver.
Laissons la justice faire le travail. Rudy Kazi. Alors, la France, ce n'est pas un self-service, une nation.
Déjà, sur les églises, c'est bien quand même de rappeler que des lieux de culte musulmans en France, il y en a 2500, mais des lieux de culte chrétiens, il y en a 100 000. Donc, c'est-à-dire, en fait, partir du principe qu'il y aurait comme une sorte de grand remplacement, etc., Ça, je pense qu'il faut l'écarter parce que les chiffres montrent que.
Bon, et là, voilà, vous voulez dire quoi alors?
Et la foi musulmane progresse, comme d'autres fois d'ailleurs, même. Il y a aussi du côté des chrétiens, les églises évangéliques aussi.
Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que vous décryptez ces propos? Plusieurs centaines de mosquées ont été créées en France.
Ne vous inquiétez pas, j'y viens. J'y viens. Oui, donc en fait, je pense qu'il parle aussi d'une forme aussi de clientélisme aussi. Et c'est vrai qu'il y a des, bon, par exemple en France, l'État ne peut pas gérer les lieux de culte, mais par contre, il y a certaines villes qui vont céder des terrains pour une construction de lieux de culte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a du clientélisme qui existe. Mais oui. Il y a du clientélisme qui existe, oui, là-dessus, aussi bien à droite qu'à gauche. Bon, un peu plus à gauche qu'à droite, mais aussi bien à droite qu'à gauche.
Ça se discute, hein, ça demande à vérifier les chiffres. Mais t'as raison.
Ça a été un moyen de gagner les élections.
Moi, j'ai beaucoup de villes de droite, justement.
Qui le font de plus en plus.
Qui le font.
Mais du temps de Mitterrand, c'était surtout les villes de gauche qui le faisaient.
Mais il n'y avait pas de mosquée au niveau de Mitterrand. Il n'y avait quasiment pas de mosquée.
Mais en même temps, je le comprends, parce que le clientélisme, ça a été une arme pour la gauche de gagner sur le terrain des élections dans des villes où la droite avait un discours.
Toutes les villes de gauche qui ont basculé à droite, comment la droite a gagné, par exemple à Bobigny, etc. Ça a été que sur du clientélisme dans les quartiers.
Bah évidemment, mais
avec
le clientélisme existait déjà avant.
Et Sarkozy,
on parle de Bobigny quand même, bastion de communisme.
Bien sûr,
ça existait déjà avant.
Mais ça a toujours existé, le clientélisme.
Bien sûr, mais comme la droite était dominante.
Mais là, en gros, on voit bien Adil qu'on est sur un terrain où il n'y a qu'un seul sujet. Faut taper sur les musulmans, faut taper sur l'islam, faut taper sur les gens de quartier, c'est payeur. Et tu sais pourquoi c'est payeur? Parce que les gens dans les quartiers ne votent pas. Et donc on a les élus qu'on mérite.
Merci à vous, merci Rudy Kazi, merci.
Peut-être un dernier mot là-dessus. Moi, je pense que encore une fois, on est pris en otage sur le sujet de l'identitarisme, en fait. Et encore une fois, on veut pas réconcilier des Français entre eux. Et c'est ça la vraie question, l'enjeu aujourd'hui.
À la semaine prochaine, Philippe Nadjibouriaki. À la semaine prochaine.
À mercredi prochain, on est là.
Bilal Nedman, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On ouvre le micro, ce sera nettement mieux. Time Sport, c'est de 20h à 21h.
Qu'est-ce qui nous attend? Les vérités de Kylian Mbappé, ça va faire plaisir ça. Philippe et aussi à Rudy.
Une vérité
Philippe, Benzema qui fait encore polémique aussi. Benzema qui fait encore polémique. Eh oui, après la sortie d'un certain Raymond Domenech au sujet de Karim Benzema, il fallait pas le sélectionner pour l'Euro.
Mais lui, il peut pas se taire, lui.
Et après, on parlera du match de ce soir. La première demi-finale de la Ligue des Nations, Italie-Espagne. Et voilà.
Le menu qui vous attend, Bilal, 20h-21h, à ne pas manquer. Merci à toi, mon cher Bilal. À la réalisation, c'était Yanis. À demain. Vous le savez, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Ciao. Les informés, tous les jours de 19h à 20h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.